à tous, et pour certains, c'est la deuxième fois parce qu'ils ont enchaîné la conférence avec nos amis britanniques sur cette rencontre, évidemment, que vous étiez nombreux à attendre. Rencontre avec Robin Hobb, 45 à 50 minutes de bonheur. Et merci à vous de lui faire un si bel accueil et de faire un si beau succès à cette 14e édition des Imaginales. On vous aime vraiment tous. La première chose que je voudrais dire, et je serai très bref parce que vous êtes surtout là pour écouter Robin Hobb, c'est que c'est certainement un des plus grands auteurs aujourd'hui de la fantasy mondiale, tout simplement. On ne va pas se payer d'adjectifs. Et la capacité de Robin Hobb, c'est la capacité de construire des mondes. C'est ça la patte des grands écrivains de fantasy. C'est la capacité à faire vivre des personnages et à surtout avoir une capacité d'incroyable émotion. Et je le disais dans un autre débat, j'ai lu quelques semaines avant ces deux premiers romans français qui représentent en fait un grand ouvrage américain. Et finalement, lors de la mort d'un personnage, on dira pas qui, on va pas spoiler comme on dit. J'ai pleuré, vraiment. Et j'ai du mal à m'endormir. Le lendemain matin, petit déjeuner, je raconte à ma croix et je me mets à nouveau à pleurer comme une idiote. Et finalement, je me dis, le grand art, c'est quand un écrivain est capable, au bout de quelques dizaines d'années, pourtant en endurcissement, de vous faire pleurer sur la mort d'un certain personnage, parce que ce personnage est déjà devenu une amie. Voilà le grand talent, voilà le grand bonheur, et c'est peut-être aussi la personne de Robin Hobb, pas seulement l'écrivain, que quelque part l'humanité pour les personnages, c'est peut-être l'humanité pour l'humanité elle-même, et c'est ce qui nous fait la richesse de ces rencontres. Encore une fois, c'est un bonheur de la recevoir, on la remercie, et je crois que je peux déjà la remercier en votre nom de revenir si régulièrement aux Imaginales. Merci, Madame Hobb. Plutôt que bavarder longuement, on va tout de suite entrer dans le nouveau roman, la nouvelle série. Quand on a une belle admiration pour un écrivain, c'est le cas de milliers, dizaines de milliers de lecteurs. Quand on a aimé la première série qui l'a fait connaître, on s'inquiète. Parce qu'après l'Assassin Royal, et même s'il y a de très belles séries derrière que nous avons été nombreux à aimer, on se dit que peut-être quand même, il va y avoir une baisse de régime. Peut-être que c'est un retour un peu fatigué, comme certaines grandes stars nous le font au bout d'une carrière déjà bien maîtrisée. Eh bien, on va voir que pas du tout. Évidemment, du temps a passé pour les personnages, du temps a passé dans notre propre vie, du temps a passé dans la vie de l'écrivain. Peut-être que c'est ce qui donne une tonalité différente. Mais vous allez voir que la passion, le talent et l'amour des personnages sont intacts dans cette série, Le Fou et l'Assassin. Petit extrait.
Au bout de 4 mois, voyant que tout était calme chez nous, j'inventai un prétexte pour me rendre à l'arrivée de Bruce. Je racontai que je souhaitais voir un des talents dont j'avais entendu parler. Je promis à Molly de revenir le plus vite possible, emportai des affaires chaudes pour un trajet dans le froid, et choisis aux écuries une jument à Lausanne, sans rien de remarquable, baptisée Sally. Monture dégarmandée à la foulée souple qui dévorait les lieux, et sans aucune ambition de tenir tête à son cavalier. C'était l'idéal pour mon voyage à Bourg de Castelserre. J'eusse pu emprunter les pierres dressées, mais j'eusse dû alors trouver un logis mon cheval. Or, je ne tenais pas à exciter la curiosité, et, si ce qui me conduisait chez Ombre était pressant, ce n'était pas non plus l'urgence. En outre, je devais reconnaître que j'avais peur de me déplacer par les pierres. Depuis que je m'en étais servi pour me rendre au chevet d'Ombre, j'éprouvais l'envie de répéter l'expérience. Si j'avais été plus jeune et moins averti de l'art, j'y ai eu de la curiosité et un désir de reconnaissance. Mais j'avais déjà vécu cet appétit. C'était la soif d'art, la compulsion à employer la magie pour le plaisir
à poser cette question est finalement assez simple. Je suis ce monde de façon chronologique. À la fin donc, des 12 volumes de l'Assassin Royal, il se passe des choses. Il s'est passé des choses dans le désert des pluies, et donc j'ai senti le besoin de chroniquer ces événements, ce qui m'a amené à revenir à la vie de Fitz pour raconter la prochaine partie, la partie suivante de sa vie, là où il y avait des événements potentiellement intéressants qui se dérouleraient. Si je vais raconter les années entre les deux, ma foi, ça aurait été la forme d'un journal assez calme, chronique de gens qui viennent en visite, de gens qui partent, du travail quotidien. Ça aurait peut-être été intéressant pour les gens qui aiment vraiment, vraiment Fitz, mais en tant que roman, ça aurait été probablement très ennuyeux. Donc, je raconte les événements dans l'ordre où ils se déroulent. Je ne veux pas cacher et dévoiler l'intrigue, mais tout ce qui s'est passé précédemment dans la cité des anciens, et en particulier dans le désert des pluies, va avoir des répercussions qui vont conduire à la prochaine explosion qui va habiter la vie de Fitz.
Il y a un thème qui m'a frappé aussi, c'est dans cette nouvelle série particulièrement, l'importance que vous accordez au lien familial, au couple, et aussi à la paternité, au lien d'un père avec sa fille, aussi mère, mais particulièrement parce qu'au début, on ne va pas trop en dire, le rapport est un peu difficile entre le père et sa fille, et pourtant quelque chose de fort va se construire. Les rapports familiaux au sein d'une famille, c'est important pour vous, la famille, dans sa diversité et dans son amour, Robin.
C'est clairement oui. Dans la fantasy que je lisais quand j'étais plus jeune, donc des choses comme Conan le Barbare, Fafre et le Souris, Sigiri, etc., j'ai lu tellement de personnages qui semblent absolument seuls dans le monde. Ils n'ont pas de conjoint ou de conjointe, ils n'ont pas d'autant qu'ils adorent, ils n'ont pas de grand-mère qui demande leur aide pour aller les aider avec les tâches quotidiennes, etc. Ils sont tous 100% seuls dans le monde et libres de faire absolument ce qu'ils veulent. Et je vous avoue que je ne connais personne qui correspond à ces descriptions. Donc, je pense que nous sommes tous façonnés, en un sens au moins, par notre famille. Et c'est une dimension qui me semblait importante. Et je pensais que les personnages, en plus de l'aspect magique, de l'aspect politique, de l'aspect commercial, parfois qu'on voit des annonces commerciales dans lesquelles ils entrent, il me paraissait important de parler en plus des liens familiaux, et que ce soit une force qui, également, contribue à façonner et à propulser l'histoire en avant, et qui, éventuellement, contribue à leur compliquer la vie davantage, et de faire tout cela, d'intégrer toute cette dimension dans la vie des personnages, plutôt que de les représenter comme des aventuriers solitaires.
Il m'a frappé aussi toujours dans les relations humaines, parce que c'est une des forces, il se passe beaucoup de choses dans le roman, mais l'attachement que vous avez pour vos personnages vous amène vraiment à creuser. Vous n'êtes pas dans la lenteur, il se passe encore une fois, il y a des fangers, on dirait, familièrement, jeunes, peut-il et doit-il porter quand même ce qui sont en partie les fautes de ses parents?
Je suis pour ma part mère et même grand-mère, et toutes les choses dans lesquelles je pourrais, si je pouvais retourner dans le passé, de toutes les choses que si je pouvais, je pourrais changer. Ce que je ferais, ce serait d'altérer, de changer certaines choses que j'ai faites quand mes enfants étaient très jeunes, et je changerais des choses comme ça. Il y a des choses que je regarde avec le recul et que parfois je me pose la question, je me dis pourquoi est-ce que ça m'a semblé tellement important à l'époque? Pourquoi est-ce que je n'aurais pas fait peut-être les choses plus simples de cette façon? Je réfléchis, du coup, je pense au passé, à tout ce que mes parents m'ont enseigné, que j'ai passé à mes enfants, que même pas sur l'heure. Je vois des belles choses qui sont transmises, aussi des choses qui sont peut-être pas si belles, qui sont transmises également. Et ça me fait poser beaucoup de questions. Je vois mes enfants corriger des choses que leurs enfants pensent que moi je faisais mal. Et je pense que c'est le cas pour tous. Nous avons ces strates et ces couches entre parents, enfants, petits-enfants, etc. Parfois, on cherche à corriger les choses. Alors, on part trop loin, on déséquilibre trop la balance dans un sens. Il faut corriger encore un autre dans l'autre sens. Donc, c'est en un sens, oui, peut-être que les enfants portent parfois les fautes des parents, mais ça fonctionne dans les deux sens également. Mais on essaie de trouver un équilibre comme ça. Au fur et à mesure qui se passe au fil des générations.
Dans les romans, comme dans la vie, le métier de parent, c'est un des plus difficiles et chacun essaie de le remplir comme il le peut, avec talent et en tout cas avec affection. C'est ça qui me paraît intéressant quand on pose ce type de question au binôme, qui n'est peut-être pas le type de question habituel, c'est d'amener le lecteur, surtout celui qui ne connaît pas encore son œuvre, à bien sentir toute la richesse justement des relations humaines. La fantaisie, parfois, c'est une histoire de grande brutasse, quoi, voilà. C'est parfois des histoires où on règle ça à coup d'épée, à coup de hache. Oui, la violence parfois fait avancer l'histoire. Oui, la violence est parfois indispensable, au moins pour se défendre. Je pense que dans les années 40, un certain nombre de gens l'ont fait, on peut le comprendre. Mais quand on replonge dans les romans de Robin Hood, on voit que tout ça est entremêlé par rapport justement à cette réflexion entre l'individu et le collectif. Alors, la question suivante que je voudrais poser va aussi porter sur la façon de faire progresser l'action, mais avant, j'aimerais quand même qu'on entende encore un petit extrait. Cécilène Edgar, qui elle-même est écrivain et a la gentillesse de nous lire des extraits d'un des écrivains qu'elle apprécie, je pense justement que vous allez voir. aussi entendre la voix de Robinov. C'est la nuit.
Il croisa les bras sur la poitrine et prit une attitude de défi, malgré ses yeux baissés. Abeille, je suis ton père. Tu ne dois pas me parler ainsi. Si je ne peux pas être franche avec toi, eh bien je ne parlerai plus du tout. Derrière ces mots, je sentis toute la force de sa volonté. Je la savais capable de retomber dans son long mutisme. La perspective d'être privée de sa compagnie me porta un coup si violent que je mesurai aussitôt l'étroitesse du lien que j'avais formé avec ma fille. Un second éclair me frappa quand je pris conscience du danger pour nous deux si je laissais mon besoin d'une présence l'emporter sur mon devoir de père. Tu peux être proche avec moi et me respecter néanmoins. Et la réciproque est vraie. Tu es différente, Abeille, et ça compliquera beaucoup certains aspects de ton existence. Mais, si tu te rabats toujours sur tes différences pour expliquer tout ce qui te déplaît dans le monde, tu finiras par passer ton temps à pleurer sur ton sort. Assurément, tu mets les garçons de ta vie mal à l'aise, et je sais aussi qu'ils n'aimaient ni l'un ni l'autre travailler aux cuisines, et que pour cette raison, la peur les a pris au moulin pour voir si ça leur convenait mieux. Tu n'es pas la cause de tout. Parfois, tu n'es qu'un élément parmi d'autres. Elle regarda ses pieds, mais ne décroisa pas les bras. Enfile ton manteau. Nous allons voir les. J'avais pris un ton assuré, sans laisser transparaître mon inquiétude. Que faire si elle refusait d'obéir?
Voilà, c'est aussi ça, les petites choses qu'on trouve dans les romans de Robinov, c'est cette vivacité dans les rapports humains et cette sensibilité, cette souci du détail. Et c'est un des points que je voulais vous demander, Robinov, pourquoi attachez-vous une telle importance au détail lorsque vous racontez une histoire?
Elle tombe. interagir avec le monde et son rapport au monde. Et cette avancée va déterminer beaucoup de choses de son destin. Là où un enfant qui aurait été capable d'être un peu plus têtu ou qui aurait été capable d'être davantage honnête aurait peut-être tracé un chemin différent dans le monde. Alors, les détails et la raison, c'est tout simplement pour essayer de construire une façon dont un personnage est crédible. Quand on voit le personnage ensuite réagir dans une situation donnée, oui, on comprend, on se dit c'est effectivement la façon dont ce personnage-là aurait réagi, puisque nous l'avons vu faire quand il était enfant, comme dit le proverbe anglais, la façon dont on publie, comme alors la traduction du proverbe anglais, c'est comment on fait son lit en se couche.
On a pas mal évoqué, on en restera donc là, vous le découvrirez en lisant les romans, les relations familiales, personnelles, au sein de ces familles, cette famille en particulier, celle de l'assassin. Il y a une autre chose que je voudrais aborder avec vous, si vous voulez bien, c'est la façon, dans le roman, la façon avec laquelle vous faites peser une menace indéfinie dans un monde où l'assassin est en retraite, en quelque sorte, à trouver un équilibre, est apaisé, à une vie familiale, est en retrait, n'est plus dans le monde, mais dans un monde relativement paisible, à trouver une sérénité, et d'un seul coup, de l'extérieur, une menace va venir, une menace qui va rôder, diffuse. Comment vous arrivez à nous mettre dans cet état où on sent la menace qui va arriver, et on se demande à chaque chapitre quand elle va arriver, on se demande qu'est-ce qui va se passer, on croit qu'on ne va pas être surpris, et pourtant au dernier moment, la suite, parce que ça nous tombe dessus, et on n'en revient pas, on s'est encore une fois fait avoir. C'est quoi ce métier d'écrivain qui arrive par amour de ses lecteurs à autant les manipuler pour autant les surprendre? And the reader is saying, you don't know what's coming, but I do. And so you worry more for them because you are better informed than they are.
Il y a beaucoup de lecteurs qui voyagent avec moi depuis maintenant 20 ans. Et il y a de tout petits morceaux, de toutes petites accroches qui ont été établi, pas seulement dans ces derniers livres, mais dans toutes les séries précédentes, dans Les Aventuriers de la Mer ou dans Le Cité des Anciens, par exemple. Et les lecteurs qui ont fait ce long voyage avec moi ont conscience de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et ils savent que tout est sur le point de déferler et de se déchaîner. Quand Fitz, humble de voir, parle des événements qui se sont déroulés, par exemple, dans La Cité des Anciens, le lecteur, lui, il en sait davantage sur ce qui s'est passé que les personnages, parce qu'il est là, il a vu ces événements. Et d'une certaine manière, c'est comme avoir toute une variété de points de vue sur les événements. Et quand on voit ces personnages qui dialoguent, qui ont des conversations sur les événements, le lecteur, lui, est dans la position de dire, oh là là, vous ne savez pas ce qui est en train de vous tomber dessus, mais moi, je sais. Et donc, du coup, C'est tout à fait tissé dans cette partie, en tout cas, de l'histoire, où on a une période qui est difficile. Il y a un passage, je pense que c'est dans Bilbo le Hobbit, où il est dit que on raconte rapidement le bon temps, que ça ne peut pas vraiment faire une histoire, et que la vie ne peut pas être que des chevauchées à d'autres poneys et le soleil brillant. Je pense que pour raconter une histoire qui soit engageante, il faut que on examine des événements qui sont plutôt sombres, plutôt que les événements qui font partie de la joie, du calme et de la paix. Donc, du coup, je suis revenu à l'histoire de Fix, à un moment qui serait difficile pour lui et aussi pour les Sinuchés. Et c'est là que l'histoire démarre avec les défis.
Est-ce qu'en quelque sorte, on pourrait dire que dans vos histoires, comme souvent dans les histoires des grands écrivains, les gens heureux n'ont pas d'histoire? Eh bien, on va l'illustrer avec un court extrait. On s'arrêtera juste à temps pour éviter de trop vous en dire.
Le fou avait toujours adoré les rébus et les énigmes et tenait encore plus à son intimité. Mais cette fois, je n'avais pas le sentiment qu'il s'agissait d'une de ces plaisanteries. J'avais plutôt l'impression qu'il m'avait transmis tous les renseignements qu'il pouvait prendre au risque de me communiquer, même s'ils étaient insuffisants, en espérant que je me débrouillerais pour découvrir le reste. Avait-il raison? Étais-je encore celui sur lequel il comptait? Curieusement, je ne le souhaitais pas. J'avais été un assassin astucieux, ingénieux, capable d'espionner, de courir, de me battre et de tuer. Mais je ne voulais plus de cette vie-là. J'avais encore sous les pouces la chaleur de la jeune femme, sur les poignets l'étreinte sans force de ses doigts alors qu'elle se débattait, sombrée dans la conscience bien.
qu'on s'éloigne d'eux, ce qui ne veut pas dire que le lien a disparu. Story. I have a little news group on sff.net. I have known some of those people for years, and one of our members, Matt, who lives in the outback of Australia and lives a very rural life on a farm, she simply stopped communicating. And no one had her phone number or her mailing address. She just disappeared. Something terrible had happened. And last week, she popped into the news group again. She had just had a busy life without us. How that could be, I don't know. But the silence, we all worried for her and wondered what had happened. And I think the sudden silence, a lasting silence with an old friend, is the hardest thing to bear.
Oui, je pense que c'est tout à fait vrai. Il y a des amis que je revois tous les 3 ou 4 ans, et quand on se retrouve, c'est comme si on ne s'était jamais quitté, comme par exemple avec vous, Stéphanie. Et ça ne pose pas de problème, on reprend là où on était l'an intéressé. Mais je pense que quand on n'entend strictement rien, aucune nouvelle des gens, c'est probablement ce qui est le plus, la forme de communication la plus dévastatrice, c'est quand on perd véritablement totalement la trace de quelqu'un. Et malheureusement, ça arrive tout dans nos vies modernes. J'ai des amis que j'ai eu pendant très 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 longtemps, parce que du coup, ils ont totalement disparu. Et c'est assez terrible, et je pense que Internet nous fait pas mal ça. Une rapide anecdote, j'ai un newsgroup, un forum sur sff.net avec des gens que je connais depuis des années. Et on avait une personne qui vit dans les zones dans la haute de l'Australie, dans les zones extrêmement rurales, qui vit sur une ferme, et qui a simplement cessé du jour au lendemain de communiquer avec nous. Et on s'est rendu compte qu'aucun de nous n'avait son numéro de téléphone, aucun de nous n'avait son adresse postale, elle avait tout simplement disparu de la surface de la Terre. Évidemment, c'est beaucoup inquiété, on s'est demandé est-ce qu'il est arrivé quelque chose de terrible. Et juste la semaine dernière, elle est réapparue. Tout ce qui s'est passé, c'est vraiment qu'elle a été extrêmement prise, elle a eu une vie très, très, très complexe. Son silence nous a beaucoup inquiété. Et je pense qu'un silence soudain et qui dure, c'est la chose la plus difficile à vivre dans une amitié.
Par contre, le plus facile à vivre, c'est d'écouter la vraie vie. Alors, je propose qu'on lise un nouvel extrait.
Échange, proposa-t-il. Ah, je me penchai vers lui. Qu'est-ce qui puisse intéresser un chat? Ses yeux s'étrécirent. Le chat, qui a le droit de dormir près de la cheminée de la cuisine, a un panier avec une couverture moelleuse et des herbes. De l'herbe à chat et de la vergerette chasse plus. Je les connaissais, c'était ma mère qui avait initié cette tradition. Je veux la même chose. Et si tu vois les humains me poursuivre avec un balai, tu dois crier, faire du tapage et les battre pour qu'ils ne recommencent plus. C'est d'accord. Et tu dois m'apporter des plats délicieux dans une assiette propre tous les jours. Il s'était rapproché de moi sans que je m'en rendisse compte. Lentement, il monta sur mes genoux et s'installa. caresser, tu dois me caresser, mais seulement quand j'en ai envie. C'était devenu un rond noir de chat sur mes cuisses. Il leva une patte, fit jaillir de longues griffes blanches et très pointues, et entreprit de les nettoyer et de tirer dessus. Très bien. Avec précaution, je posai les mains sur lui. Mes doigts s'enfoncèrent dans son épaisse fourrure noire. Qu'il était chaud. Je lui caressais délicatement le flanc et trouvais deux petites bourres végétales et des épines. Je les ôtais. Le bout de sa queue s'agita soudain et s'enroula sur mon poignet. C'était absolument adorable. Je plaçai mes doigts sous son menton et le grattai doucement. Il leva la tête et une curieuse paupière semi-transparente couvrit ses yeux mi-clos. Je déplaçai la main pour lui caresser les oreilles. Son ronronnement devint plus grave et il ferma les yeux. Nous restâmes ainsi un moment, puis il s'étendit mollement sur le côté. Du plat de la main, je retirai des bourres végétales de la fourrure de son ventre. Aussi brusquement qu'un serpent qui frappe, il m'agrippa l'avant-bras, m'infligea trois méchants coups de griffe des pattes de derrière, puis détala dans l'obscurité sans laisser même le spectre d'une pensée pour expliquer son geste.
C'est autobiographique, Robineau. Est-ce que, pour cette petite scène, c'est pour montrer que même s'il y a des choses sombres, il y a aussi évidemment de l'humour et des petites scènes de vie quotidienne. Est-ce que là, vous ne nous parlez pas de cette époque, mais aussi d'aujourd'hui, c'est-à-dire que le chat, malheureusement, c'est peut-être la seule chose qu'on pourrait leur reprocher, ne sait pas encore que nous sommes l'espèce dominante.
Of the house is gone.
Tout à fait. Je l'ai cherché du grain pour mes poules. Et l'homme qui tient la boutique est arrivé avec un carton et m'a dit regardez ce que j'ai trouvé dans la grange. Il y avait six petits chatons dans la boîte. Et il se trouve qu'en ce moment, j'ai pas de chat. Alors voilà, je suis rentré avec deux petits chatons noirs et je peux vous dire que la paix que vous avez en la maison n'existe plus.
Comment construisez un roman? Organisez-vous l'évolution du récit en alternant à la fois les dialogues avec les personnages principaux, en montrant les menaces qui peuvent peser et en brossant des petites scènes de vie quotidienne comme celle-là. Comment ça se lit tout ça quand on est un écrivain de métier comme vous?
In live ships, for instance, when you are using many characters,
pense que quand on a un récit avec beaucoup de points de vue, comme il y a dans les Aventuriers de la Mer, on a beaucoup de personnages, je pense que en tant qu'auteur, on se demande, on se pose la question, quel est le personnage qui va être dans la meilleure position pour raconter la meilleure partie de l'histoire. Alors à ce moment-là, on se faufile dans le point de vue de ce personnage et on raconte cette partie de l'histoire avec ses émotions, avec ses réactions, avec ce qu'il sait, et évidemment, on ne dit pas ce qu'il ignore. Et puis, on parfume tout ça à partir avec le filtre de qui est ce personnage. Mais quand on regarde une histoire tout entière, et qu'on la déroule, et si l'on racontait simplement les points de l'intrigue les plus intenses et les scènes les plus fortes, on n'aurait pas un livre, on aurait juste une succession d'événements sans vie. Quand on a un seul personnage et qu'on essaie de donner vie à une scène, je pense que ce qui est important, c'est que le lecteur comprenne pourquoi est-ce que le personnage a fait telle chose et pas telle autre, pourquoi est-ce qu'il a pris telle décision et pas telle autre décision. Même quand le personnage, on sait, on le voit venir, qu'il va prendre une décision qu'il va probablement regretter par la suite. Là encore, comme je disais tout à l'heure, c'est une situation où le personnage apporte plus d'informations que ce que le personnage n'en a. Et je pense que c'est ce qui constitue le rythme d'un livre, c'est quand on dévoile et qu'on déplie l'histoire, petit morceau par petit morceau.
On fait pareil, on saupoudre un peu pour vous donner envie de rentrer dans ce nouveau roman, ce nouveau cycle de Robin Hood. Alors, toujours sans révéler quoi que ce soit, vous vous rappellerez plus tard en lisant le livre, ça me rappelle quelque chose, mais vous serez incapable avant de le situer. On va laisser encore une dernière fois Silène Edgar. Je vous rappelle qu'elle est le même auteur, entre autres pour la jeunesse, et qu'elle fait de très jolies choses, mais qu'elle accepte en plus de nous prêter son talent, son enthousiasme et sa voix, il faut le dire, parce que c'est pas évident et pour me faciliter justement le questionnement de Robin Hood. Silène, une dernière lecture.
C'est avec plaisir. Ce que j'ai entendu ne m'a pas plu, reprit-il à mi-voix. Personne ne m'aimait. J'avalais péniblement ma salive et je dis, le souffle court. Je n'ai pas pu m'expliquer. Je secouais violemment la tête en crochetant des larmes autour de moi. Non, il ne voulait même pas que je m'explique. Il était persuadé de détenir la vérité et il refusait que je la démentisse. Je ramenais mes genoux contre ma poitrine et les serrais fort en regrettant de ne pouvoir briser mes propres jambes, de ne pouvoir me détruire moi-même pour échapper à ces émotions terribles. Je t'ai défendu, naturellement, poursuivit-il. Je lui reprochais de ne pas s'être renseigné auprès de moi sur ton intelligence réelle et de ne pas avoir parlé avec toi avant le début des leçons. Je lui ai dit qu'il s'était abusé tout seul sur ton compte. J'ai ajouté que je lui laissais une chance de te donner une instruction qui convienne à ton niveau et que s'il n'y arrivait pas, il continuerait peut-être à prodiguer des cours aux autres enfants, mais que je ne permettrais pas que tu perdes ton temps et que je me ferais un plaisir de t'enseigner moi-même ce que j'estime nécessaire. Il s'exprimait d'un ton parfaitement calme. Je le regardais, le souffle coupé. Il se pencha vers moi avec un sourire tremblant. Croyais-tu que je pouvais réagir autrement, Abeille ? Je toussai, puis me jetai contre lui. Il me prit et me serra dans ses bras.
L'éducation, ça, la mauvaise et la bonne éducation, c'est quelque chose qui est visiblement important. On retrouve l'enseignement, la transmission, c'est des choses visiblement qui vous parlent. Pourquoi Robin Hood?
When I wonder why, at least in
pense que quelque chose qui est bien présenté et qui vous intéresse, vous la prenez sans effort. Et je pense effectivement que ce qu'on enseigne et la façon dont on enseigne les choses aux jeunes gens, pas seulement aux enfants, mais les jeunes gens de façon générale, est extrêmement important. La façon dont on leur révèle, est-ce qu'on va leur dévoiler le sujet petit à petit ou est-ce qu'on va simplement leur crier dessus. Et je pense que ça façonne également cette responsabilité que nous avons en tant qu'adultes, puisque ça va façonner la façon dont ces enfants vont réagir ensuite, plus tard, à mesure qu'ils grandissent. Je pense que nous avons tous eu des expériences dans notre vie où nous avons suivi un cours que nous pensions qu'il serait intéressant. Nous sommes tombés sur un très mauvais professeur, terrible, qui était tellement mauvais qu'il nous a simplement dégoûté de ce sujet-là. Et que nous n'avons plus jamais envie d'y revenir et que ça nous a dégoûté, que plus jamais on veut l'aborder. Et ça, je trouve que c'est extrêmement dommage. La façon dont nous enseignons les choses en même temps que ce que nous enseignons est extrêmement importante.
Et ce serait quand même un joli mot de la fin pour cet entretien qui a été, j'espère, pour vous comme pour nous, un bonheur de l'accompagner et de nous faire répondre à quelques questions. À partir de là, on est comme vous, on l'écoute. Vous allez pouvoir la retrouver dans quelques minutes sur la bulle du livre. Elle signera évidemment toujours avec sa gentillesse habituelle les ouvrages, elle n'osera pas vous le demander elle-même, alors je vous le demande, si vous faites dédicacer un livre, un seul, parce qu'elle a vraiment un public très vaste, et même si elle est toujours disponible pour ses lecteurs, parfois on l'a senti, elle est un peu fatiguée, voilà, elle est à votre disposition, mais ménagez-la tout de même. Merci Robin Homme, et encore 24 heures pour trouver l'occasion de lui parler, de la rencontrer. Malheureusement, il est trop tard pour les déjeuners de demain. Les 20 places sont déjà prises. Mais une autre année, parce que je crois ne pas trop m'avancer, quand je vous dis que, d'abord, on va profiter encore tout à l'heure des signatures, on pourra la retrouver demain, elle reviendra. Et